Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأس والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver encore une fois sur ces ondes de l'amitié et de fraternité de Radio Téhéran en ce mercredi 13 juillet 2022. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information suivi d'un commentaire politique. Vous aurez ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. Les présidents de la Russie, de la Turquie et de l'Iran vont se réunir le 19 juillet à Téhéran pour un sommet sur la Syrie. Les forces d'occupation américaines ont fait entrer un convoi composé de 43 véhicules chargés d'équipements et de matériel logistique dans la région syrienne de Jazira. Et le président togolais et son homologue Bissoguinian ont exprimé de vives préoccupations face à la recrudescence du terrorisme en Afrique de l'Ouest. C'étaient les principaux titres. En voici le journal. Les présidents russes et turcs se rendront en Iran. Le président russe, Vladimir Poutine, prévoit de se rendre à Téhéran pour assister au pourparlers de paix d'Astana sur la Syrie avec ses homologues turcs et iraniens, a indiqué le Kremlin. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré mardi 12 juillet que Poutine s'entretiendra avec le président iranien Ebrahim Raisi et le président turc Recep Tayyip Erdogan le 19 juillet. La visite du dirigeant russe à Téhéran sera son deuxième voyage à l'étranger depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par Moscou le 24 février. L'Iran et la Russie, en tant qu'alliés du gouvernement syrien, ainsi que la Turquie, qui se range du côté de l'opposition, ont mis en place le processus de paix d'Astana en janvier 2017 dans l'intention de mettre fin au conflit syrien grâce à l'implication du gouvernement syrien et de l'opposition. Les trois pays ont jusqu'à présent tenu 18 séries de pourparlers, initialement dans la capitale kazakh, Astana. Le dernier sommet tripartite s'est tenu à Nur-Sultan à la mi-juin. Les participants au 18e sommet international sur la Syrie, au format Astana, ont réaffirmé leur ferme attachement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la Syrie et annoncé leur ferme opposition à l'agression et aux atrocités israéliennes dans ce pays déchiré par la guerre. Le président de la Commission économique du Parlement iranien, Mohammad Rezapour Ebrahimi, a affirmé qu'après la visite du président iranien en Russie, une ambiance positive a été créée concernant les coopérations économiques irano-russes. De très bons accords ont été signés lors de cette visite. Le président Raisi a lancé une nouvelle ère dans les relations économiques Iran-Russie et a rassuré les Russes de la volonté de la République islamique d'Iran de coopérer avec la Russie. Rappelons que les Russes sont plus sérieux que par le passé pour avoir des relations et coopérations économiques avec l'Iran. Le haut parlementaire iranien a affirmé que des programmations pour le développement de ces coopérations comptent parmi les priorités des deux présidents lors de la future visite de Poutine en Iran. Le président de la Commission économique du Parlement iranien a également déclaré que lors de la récente réunion avec la présidente de la Banque centrale russe, des accords ont été signés dans le domaine des coopérations monétaires et bancaires pour pouvoir éliminer le dollar des transactions irano-russes. le rouble et le rial seront désormais la base du commerce dans les transactions des deux pays. Le volume des échanges entre l'Iran et la Russie n'a cessé d'augmenter ces dernières années, mais ces 9 derniers mois, il vient de passer de 2 à 4 milliards de dollars, a-t-il encore noté, soulignant que la création du corridor nord-sud est de nature à augmenter considérablement les revenus en devises de l'Iran, il a déclaré. Ce corridor permettra aux Russes d'accéder au golfe Persique et à la mer d'Oman et d'exporter leurs produits vers les pays du golfe Persique. L'une des clauses de nos récentes négociations à Moscou est la finalisation de la voie ferrée Rasht-Astara et il a été décidé que les Russes mettront pleinement en œuvre leurs engagements. La route Garmsar-Inchebron devrait être également achevée conformément aux accords conclus ces dernières années. Si la route Rasht-Astara est achevée, le corridor central iranien sera lancé. Depuis la route maritime d'Astara, nous pouvons atteindre les côtes de la Russie, qui est la rive la plus septentrionale de la mer Caspienne. La route terrestre de l'Iran sera également reliée à la Russie via l'Azerbaïdjan. Dans ce cas, le couloir occidental et central de l'Iran sera relié à la Russie. Le vice-président iranien pour la science et la technologie, Serena Sattari, et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de la République du Mali, Amadou Keïta, ont conclu lundi 11 juillet des accords pour développer la coopération dans les domaines technologiques et scientifiques. Lors d'une réunion à Téhéran, les deux parties ont exploré des voies pour élargir la coopération bilatérale dans les domaines de la science et de la technologie avec la participation d'entreprises fondées sur la connaissance. Bénéficiant des ressources humaines expertes et les plus expérimentées dans les entreprises fondées sur la connaissance, l'Iran a été en mesure d'atteindre le développement de produits locaux, a déclaré Serena Sattari, ajoutant que le pays a également réussi à jouer un rôle de premier plan dans le domaine de la nanobiotechnologie et l'industrie aérospatiale. Par conséquent, l'Iran est prêt à renforcer sa coopération avec le Mali dans les domaines de la science et de la technologie, a-t-il souligné. Ailleurs, dans ses remarques, Serena Sattari a souligné la nécessité de soutien continu et indéfectible des gouvernements dans le domaine du développement des interactions technologiques avec d'autres pays et a déclaré que les gouvernements peuvent jouer le rôle de pont entre les activistes technologiques et renforcer les relations entre les entreprises fondées sur la connaissance et le savoir et les entreprises créatives des deux pays. Le responsable iranien a affirmé que l'Iran était prêt à organiser une exposition exclusive pour le Mali en Iran dans le domaine des équipements de laboratoire et d'agriculture. Pour sa part, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche de la République du Mali a décrit l'Iran comme un pays grand et important dans le domaine de la technologie, qui a obtenu de nombreuses réalisations dans les domaines de l'agriculture et de la santé. Amadou Keïta a souligné que les deux pays, l'Iran et le Mali, jouissent de capacités élevées pour élargir leur coopération scientifique, ajoutant que le Mali était prêt à envoyer ses étudiants pour poursuivre leurs études dans les centres universitaires en Iran. Les forces d'occupation américaines ont fait entrer ce mardi 12 juillet un convoi composé de 43 véhicules chargés d'équipements et de matériel logistique pour soutenir leurs forces dans les bases militaires illégales dans la région syrienne de Jazira. Des sources locales de la banlieue de Yarubiya ont fait savoir à la correspondante de Sana qu'un convoi composé de 32 camions, véhicules et 11 camions citernes est entré en Syrie ce mardi matin via le poste illégal d'Al-Walid en provenance du nord de l'Irak. Dans le même contexte, un convoi appartenant aux forces d'occupation, composé de 20 véhicules, s'est dirigé la nuit dernière à partir de la base d'occupation dans l'aéroport de Kharab al-Jir vers la localité de Talamis, puis vers Asaké, selon les sources syriennes. Le président togolais Faure Gnassingbé et son homologue bissau-guinéen Oumaro Sissoko Embalo ont exprimé de vives préoccupations face à la recrudescence du terrorisme en Afrique de l'Ouest, selon un communiqué conjoint publié mardi 12 juillet à Kara, dans le nord du Togo. Élu à la tête de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, Oumaro Sissoko Embalo a effectué une visite ce 12 juillet au Togo. Les deux chefs d'État ont exprimé leur vive préoccupation face à la recrudescence du terrorisme et ont invité à cet effet la communauté internationale à soutenir davantage les efforts que déploient les pays affectés face à ce fléau qui ne cesse de gagner du terrain, indique le communiqué. Au cours de leurs entretiens, les présidents togolais et bissau-guinéens ont discuté des relations bilatérales, de la situation en Afrique de l'Ouest et ont également abordé des questions internationales. Sur le plan international, les deux chefs d'État ont réaffirmé l'urgence d'une désescalade dans le conflit russo-ukrainien, dont les répercussions se font lourdement ressentir sur le continent africain, ajoute le communiqué. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Après la Belgique et la France, tentative italienne pour violer l'UCAS US. En déclenchant une confrontation hybride contre la Russie au sujet de l'Ukraine, les États-Unis et leurs alliés vacillent précairement au bord d'un conflit nucléaire. Et les tentatives de blâmer Moscou pour cela sont absolument inacceptables. Après avoir provoqué l'aggravation de la crise ukrainienne et déclenché une féroce confrontation hybride contre la Russie, Washington et ses alliés se balancent dangereusement au bord d'une confrontation militaire ouverte avec notre pays, ce qui signifie un conflit armé direct entre des puissances nucléaires. Il est évident qu'un tel affrontement serait lourd d'escalade nucléaire, a déclaré mardi 12 juillet la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova. Que devrait comprendre un Italien lambda de cette confirmation très claire d'un risque de conflit nucléaire Occident-Russie ? Qu'outre d'avoir à faire face aux conséquences militaires d'une guerre que les Yankees attisent de jour en jour, et ce en allant jusqu'à s'en prendre désormais et directement au territoire russe, la saison froide sera terriblement dure cette année. C'est sans doute sur base de ce constat que Rome, méga base de l'OTAN en Europe méridionale, a tenu à convier le ministre iranien des Affaires étrangères en Italie. Et ce, en se foutant royalement des dernières menaces de l'Américain Jack Sullivan, qui dit « avec l'Iran, c'est à prendre ou à laisser, sinon il risque l'isolement ». Le lundi 11 juillet, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a rencontré son homologue italien, Luigi Di Maio, à Rome, avec qui il s'est entretenu des développements bilatéraux, régionaux et internationaux. Au grand bonheur de l'Italien, l'Iranien a évoqué les relations séculaires entre Téhéran et Rome et les capacités réciproques à l'étendre, soulignant la nécessité pour les deux parties d'utiliser ces possibilités afin que les coopérations s'élargissent autant que possible, en particulier dans les domaines économiques et commerciaux. En Europe, c'est sur l'Italie qu'il se concentre notre effort de développement de liens, a-t-il lancé. Un peu plus tard, Amir Abdollahian a été invité vedette de la Chambre du commerce irano-italien où il a rappelé que le nucléaire et un accord, c'est bon. Mais l'Europe se devrait avant tout penser à la crise de Covid-19, à sa sécurité alimentaire et énergétique. Le ministre iranien ne l'a pas dit à haute voix, mais quand il a évoqué fièrement le corridor nord-sud qui, via le territoire iranien, transite des marchandises russes vers l'Inde, il l'a pensé. Que cet accord nucléaire de 2015, où l'Europe a joué sans pour la première fois après la guerre mondiale un rôle axial, Trump l'a bousillé, pétant pour porter atteinte à l'Iran, qui sait bien vivre avec les sanctions, mais contre cette même Europe politique, et qu'en fait, si en 2015, l'Europe y avait tenu tête et n'avait plus maintenant à courir comme des caniches derrière une Amérique guerrière qui la mène droit à un conflit militaire. Amir Abdollahian ne l'a dit pas à haute voix sans doute, pour la bonne et simple raison que l'Italie, en invitant l'Iran à se connecter à son marché, cherche à contourner les États-Unis et que la crainte du froid hivernal la pousse à penser au gaz et au pétrole iranien qui coule à flot et qui va droit dans les réservoirs de la Chine avec un prix ultra rentable de 10 dollars sous les prix du marché. Et cette manière de contourner l'Amérique est plutôt la bienvenue. Il y a quelques jours, la Belgique s'est engagée en faisant voter par son Parlement une loi autorisant un échange de prisonniers avec l'Iran. La France, dont le président, dans un excès de réalisme, a récemment reconnu que sans le pétrole et le gaz de l'Iran et du Venezuela, tout sera perdu, tente elle aussi à emprunter cette voie, à savoir agir, en sorte que l'embargo US, que le mécanisme anti-sanction de l'Iran a réduit à néant, ne soit respecté que par les Américains eux-mêmes. Est-ce la revanche timide des vrais faux alliés d'une Amérique dont les politiques consistent à liquider politiquement, économiquement et militairement l'Europe? Peut-être. Il n'en reste pas moins que le temps presse. En effet, en imposant de nouvelles sanctions contre la Russie en juin, les autorités canadiennes ont non seulement exacerbé la crise du gaz en Europe en raison de la réduction de la capacité du Nord Stream, mais aussi créé une crise de l'uranium. La semaine dernière, le département américain de l'énergie a demandé des offres pour jusqu'à 1 million de livres du 308 en lien avec l'intention du gouvernement de créer un stock stratégique d'uranium. Les quotas individuels iront de 50 000 à 100 000 livres du 300 et l'uranium doit provenir uniquement de producteurs américains locaux, a déclaré Effen Arena dans un rapport hebdomadaire. Maintenant, la situation évolue rapidement, note Alexander Uvarov, le rédacteur en chef d'Atominfo. Alexander Uvarov explique aussi que le danger d'une telle dépendance vis-à-vis de la Russie est bien connu aux États-Unis, ainsi que le fait que les États-Unis souhaitent périodiquement restaurer leur propre production pour environ 20 ans. Mais les technologies d'enrichissement de l'uranium par centrifugation dont disposent la Russie et l'Europe, les États-Unis ne les ont jamais utilisées à des fins commerciales, poursuit Uvarov. Ils ne peuvent pas acheter cette technologie. Ils doivent donc soit la voler, soit la développer à partir de zéro. Tout ce qu'ils ont aujourd'hui, ce sont les installations du laboratoire expérimental Centrus. Il faudra au moins 5 à 10 ans pour développer à nouveau toute industrie, dit Uvarov. La Russie n'est en effet pas le plus grand producteur et exportateur d'uranium, mais sa part dans les services de conversion de l'uranium est d'un tiers et dans l'enrichissement, 40% du marché mondial. De plus, les exploitants de centrales nucléaires américaines reçoivent 20% de leur uranium enrichi de Russie. Il est vrai que les prix au comptant des services d'enrichissement d'uranium ont augmenté de 65% depuis le début de l'année. Et certes, les Européens iront connaître une nouvelle crise nucléaire qui s'ajoute à celle du gaz et de l'essence. L'hiver prochain s'annonce d'ores et déjà difficile pour l'Europe. Amir Abdullahian a raison. Que l'Europe se démène pour renouer avec l'Iran, d'intégrer le corridor naval anti-sanctions iranien qui, partant du golfe Persique, va à la Méditerranée orientale en passant par la mer Rouge et qui s'étend même jusqu'aux Caraïbes. Après tout, entre la Syrie d'une part et la Grèce et Chypre de l'autre, il n'y a que quelques centaines de kilomètres et les pétroliers iraniens pourront aussi se diriger vers les côtes grecques et chypriotes. Au diable l'Amérique, au diable l'accord nucléaire, et que l'Europe revienne à sa logique eurasiatique.
Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition diffusée depuis la capitale iranienne, Téhéran. En effet, le CENTCOM et le Pentagone se sont de plus en plus préoccupés par le rapprochement sans précédent entre l'Iran, la Syrie et la Russie. Une attaque dans la nuit de 4 à 5 juillet a frappé Al Omar, la base illégale américaine à Deir ez-Zor, une attaque qui a suivi une première attaque dans la nuit de 3 juillet. Mais ces attaques interviennent après les raids illégaux de l'entité sioniste, des raids avec des missiles hypersoniques contre Tartous. En effet, plus d'un analyste voit dans ces attaques une tendance d'hypersonisation des raids aériens de l'entité sioniste contre la Syrie, dont les missiles de croisière sont inefficaces face à la DCA syrienne imperméable. De son côté, la Russie a vivement condamné ces attaques, les qualifiant d'impardonnables et d'inadmissibles. Damas, qui a été l'hôte du ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a de son côté annoncé son souhait d'ouvrir des ambassades à Donetsk et à Louhansk face à l'envoi des terroristes à la solde des Turcs et des Américains en Ukraine. Mais ce rapprochement reste-t-il là ? Bien sûr que non, et c'est l'entité sioniste et l'axe américain qui se sent de plus en plus en panique et préoccupé par ce rapprochement. On en débat avec nos deux invités d'honneur, Aïssar Midani, analyste franco-syrienne, qui nous rejoint depuis Damas, et Luc Michel, géopoliticien, qui est avec nous depuis Bruxelles. Je vous dis bonjour, Madame Midani. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous qui êtes à Damas et qui suivez de près les évolutions, comment interprétez-vous les dernières évolutions en Syrie, les attaques illégales d'Israël et du régime sioniste contre les régions syriennes, mais aussi la riposte syrienne et de l'axe de la résistance?
Écoutez, je vous salue, je vous remercie de votre invitation. Je salue votre invité et je vous souhaite une excellente fête de Eid al-Adha à tous. Donc ça c'est et je suis ravie d'être à Damas et d'être aussi avec vous.
Bonne fête à vous aussi, Madame Midani.
Merci, merci. Alors ça c'est pour commencer. Deuxièmement, en Syrie, les choses se passent. De manière, je peux dire, très difficile, en fait, très difficile au niveau du quotidien des personnes et au niveau des quotidiens de tout le monde. Les agressions israéliennes se multiplient et effectivement, en fait, la riposte de l'État syrien ou de l'armée syrienne se fait sur le moment pour en interceptant un certain nombre de missiles, mais ceci, ça n'empêche pas qu'il y ait des dégâts aussi et que tous ces dégâts, ils s'accumulent et que ça augmente la difficulté du peuple syrien. Ça, c'est aussi un deuxième point. Le troisième point, en fait, dont je voulais vous parler, c'est aussi cette visite intéressante et importante de Monsieur Amir Abdollahian aussi en Syrie, après sa visite en Turquie, parce qu'en fait l'idée de cette visite, c'était du côté que nous avons pu déceler dans le discours de Monsieur Abdollahian. Que l'idée, c'est de faire effectivement une sorte de médiation pour que tous les pays de la région puissent vivre en paix correctement, dans le respect des règles internationales, et puis surtout en coopérant pour de meilleures conditions de stabilité, de coopération et de sécurité. Or, il est parti sur ce thème-là pour rencontrer les Turcs et après il est venu en Syrie. Malheureusement, la Turquie a commencé dès le lendemain de son départ aussi une agression nouvelle contre la Syrie. Ils ont bombardé des villages entiers syriens aux alentours des frontières turques, des quantités de populations civiles et de familles civiles sont prêtes aussi à s'exiler, à partir, fuyant les bombardements systématiques des Turcs, alors que, en fait, ce qu'ils ont exprimé, ce que les Turcs ont exprimé à Monsieur Abdollahian, c'est que ils ont exprimé leur crainte du fait que Qassad FDS puisse être à leur frontière. Eux, ils pensent que FDS c'est le PKK et ils ne voudraient pas que le PKK soit à leur frontière. Or, en fait, la meilleure et la seule garantie pour cela, c'est le déploiement de l'armée syrienne. Or, sur les frontières syro-turques et dans tout le respect de la charte internationale et de la souveraineté de la Syrie et de la Turquie, Or, on voit que immédiatement la Turquie viole la souveraineté non seulement de la Syrie, mais de l'Irak à côté. Mmh. Ils ont commencé à bombarder les deux pays. Et en fait, on pense que Erdogan essaye surtout de se faire valoir pour avoir des choses en contrepartie. Et ça, c'est vraiment, ça ressemble à toute la politique turque depuis 12 ans, en fait, qui est agression sur agression et signe des traités. Je voudrais rappeler aussi que la Turquie est partie intégrante de la formule d'Astana, en fait, des rencontres d'Astana, oui. Et que la Turquie a signé et acquiescé un certain nombre de solutions, de décisions qu'elle n'a jamais appliquées, et que à chaque fois ils signent et ils font le contraire le lendemain. La principale décision qu'ils avaient signée et qui a été en fait l'aspect principal de ces décisions, c'est l'unité du territoire syrien, c'est contre tout séparatisme, c'est le respect du territoire syrien, de la souveraineté de l'État syrien, le retour de l'ensemble des territoires syriens au contrôle de l'armée syrienne, donc que l'occupant turc quitte, hein, oui. Et surtout d'arrêter de soutenir aussi les factions terroristes qui sont presque au nombre de 70 maintenant, des factions terroristes que la Turquie anime, soutient, forme, dirige, etc., aussi bien à Idlib que dans le nord-est, Hasaké et Qamishli et puis Tel Rifat, etc.,
oui.
Sur toutes les frontières de la Syrie. Or, on voit la Turquie continue à les équiper, continue à leur donner des armes, des munitions, à leur faire aussi de la propagande, à leur prêter des médias qui ont une portée internationale, etc.
Oui.
Tout ça disant que c'est soi-disant l'opposition syrienne ou la démocratie syrienne qui veut voir venir au pouvoir.
Bien
Alors,
sûr.
Toutes ces ingérences sont absolument pas tolérables et elles ne sont ni tolérées ni tolérables par l'État syrien, d'une part, et puis que d'autre part aussi, l'Iran comprend parfaitement que cette position de l'État syrien. L'Iran se propose aussi d'être, je dirais, un peu le messager pour qu'il y ait une bonne entente entre tous les pays de la région, mais en dehors de toute influence étrangère, en dehors de toute violence et surtout pour une sécurité commune de l'ensemble de la région.
Merci.
Avec tous les pays de la région, mais sans aucune intervention étrangère. Ce qui est le cas aujourd'hui aussi, les Turcs sont soutenus par les Américains et par l'OTAN.
Oui. Merci pour vos explications, Madame Hidani. Restez avec nous. Nous avons également Luc Michel, géopoliticien avec nous, qui nous rejoint depuis Bruxelles. Monsieur Michel, bonjour à vous. Alors, quel regard portez-vous sur les évolutions en Syrie, vu le rapprochement sans précédent entre l'Iran et la Syrie d'un côté, le renforcement des forces militaires russes dans le nord-est de la Syrie, mais également l'affaiblissement du front et de l'axe US-Israël en Ukraine d'un autre côté? Comment pourrait-on interpréter cette situation, M. Michel?
Tout d'abord, bonjour à vous et à votre équipe. Et bonjour à Mme Midani. Je salue à travers elle Damas, qui est une ville dans laquelle j'ai gardé beaucoup d'excellents souvenirs de l'émission en 2013-2014. On constate en Syrie, comme en Afrique, au Mali, et surtout en Ukraine, que le principe de réalité démontre la propagande de guerre de l'OTAN. Aujourd'hui, comme Poutine le disait déjà en 2014, les médias de l'OTAN, c'est l'empire du mensonge. Il y a quatre gros mensonges actuellement. Le premier, c'est que la Russie néglige la Syrie parce qu'elle est engagée en Ukraine. La deuxième, c'est que l'Iran soutiendrait une nouvelle intervention turque en Syrie. La troisième média mensonge, évidemment, c'est que, bien entendu, il y aurait un désastre humanitaire que Moscou et Damas prépareraient en empêchant le renouvellement de l'aide sous prétexte humanitaire de l'ONU aux fractions terroristes qui sont dans la région d'Idlib. Et enfin, le quatrième mensonge, c'est que la Turquie s'éloignerait de l'OTAN et serait en fait assez proche de l'Iran et de Poutine. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Exactement l'inverse de ces médias mensonges. Tout d'abord, l'axe de la résistance soutenu par la Russie n'a jamais été aussi fort. Et aujourd'hui, comme à la fin de la guerre froide, la parité stratégique est rétablie dans le domaine aérien avec l'axe de la résistance et les Israéliens. La seconde chose, évidemment, c'est que l'Iran, bien loin de soutenir l'agression turque, elle vise en fait à ce que les Turcs quittent la Syrie. C'est cela, ses informations diplomatiques. La troisième chose, c'est que la Turquie, qui est la deuxième armée de l'OTAN et la principale complice des États-Unis en Méditerranée, au Proche-Orient, mais aussi en Afrique, évidemment, à travers une série de coups de poker géopolitiques, est un cheval de Troie des États-Unis. Les accords d'Astana n'ont jamais été appliqués. Ils servent à maintenir l'occupation américaine dans le nord-est de la Syrie. C'est la même chose qui se passe dans l'Iran d'Afrique actuellement, en Libye, au Mali, au Burkina Faso, etc. Et c'est la même chose qui se passe en Méditerranée, sans oublier l'Ukraine, dans laquelle la Turquie, sous prétexte d'une neutralité qui serait bienveillante pour Moscou, arme les Ukrainiens, leur fournit des moyens et organise le blocus de la flotte russe en Méditerranée. Voilà donc tous ces mensonges qui sont en train de s'écrouler. En fait, la Syrie, dans le front actuel de confrontation entre le bloc américain occidental et le bloc de l'Est, qui comprend trois grands fronts, le front ukrainien, le front syrien et le front malien au cœur de l'Afrique, la Syrie tient absolument sa place dans ce front. Et la reconnaissance des républiques autonomes de Lugansk et de Donetsk par la Syrie, évidemment, est une pierre apportée au renforcement de la politique russe.
Merci pour vos explications. Alors, Madame Idani, lors de sa rencontre avec le ministre iranien des Affaires étrangères, M. Amir Abdollahian, le président Assad, M. Bachar Assad, avait annoncé que, en fait, les dommages politiques causés par l'Occident en Ukraine et la crise ukrainienne en général étaient le début d'un nouvel équilibre international en faveur des pays comme l'Iran et la Syrie qui respectaient les droits humains. Comment interprétez-vous ce discours du président Assad?
En fait, effectivement, cette crise en Ukraine, si on peut parler de crise, en fait, c'est une véritable guerre entre à travers laquelle l'OTAN agresse la Russie à travers l'Ukraine, et ce n'est que la phase une phase avancée de ces agressions depuis 90, je dirais, depuis l'effondrement de l'URSS. Donc, en fait, dans la position du président Assad, ça montre effectivement que c'est un vrai changement de la donne mondiale en fait qui s'opère aujourd'hui. C'est que les États-Unis, après l'effondrement de l'URSS, ont monopolisé, je dirais, ont exercé et monopolisé le pouvoir sur l'ensemble des pays du monde. Ils ont voulu imposer leur vision, leur diktat partout, et qu'aujourd'hui, cette confrontation avec la Russie qui a montré et qui a mis en évidence non seulement la force de la Russie, mais elle a mis en évidence aussi le rejet d'un tas de peuples du monde de l'hégémonisme et de l'ingérence dans les affaires des autres pays. Donc en fait, aujourd'hui, non seulement un monde multipolaire pointe son nez, je dirais, mais aussi c'était aussi l'occasion d'un regroupement nouveau des pays qui représentent effectivement sous la pression de leur peuple aussi, qui refusent ce regroupement des pays, qui refusent d'un côté, on a des pays agresseurs qui veulent une continuité de la domination occidentale, donc qui est caractérisée par les États-Unis, les pays de l'OTAN et les pays qui sont sous la férule de l'OTAN, mais aussi en face, il y a donc, on a vu se faire un autre front ou un autre axe de pays comme la Russie, comme l'Iran, comme la Chine, comme l'Inde, qui aussi soutiennent d'abord une bonne application de la Charte des Nations Unies, un respect des peuples et un respect de leur souveraineté et surtout le fait que leurs richesses leur appartiennent. Et que d'un autre côté, donc tous ces pays se sont regroupés de différentes manières, donc soit en refusant d'appliquer les sanctions contre la Russie, soit aussi en soutenant la Russie dans sa guerre, dans cette guerre, et aussi en refusant le diktat américain. Pour certains, c'est la première fois de notre vie qu'on voit ce rejet du diktat américain pour des pays, par exemple, comme l'Arabie saoudite, les Émirats, etc., qui ont toujours été un petit peu à la botte des Américains. Oui. Là, ils ont refusé de mettre en place les sanctions, ils se sont abstenus dans les votes à l'ONU, etc. Donc, tout ceci montre effectivement qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau mondial et il y a un changement très profond qui s'opère et qu'aujourd'hui, les peuples n'acceptent plus ce diktat de tous les côtés et ajouter non seulement diktat, plus sanctions, ce qu'ils appellent sanctions, que ce sont des mesures unilatérales coercitives qui empêchent le libre-échange, qui empêchent l'échange entre les pays de manière respectable et respectueuse de leur souveraineté, mais qui donnent en plus, qui font ce qu'ils appellent sanctions, ça fait valoir cette pression américaine sur les pays et sur leur économie. Or, ce rejet est très, très important, je dirais, par les peuples. Ça verse vraiment dans le sens de la lutte du peuple syrien contre le terrorisme, dans la lutte du peuple de tous les peuples, le peuple vénézuélien, le peuple cubain, le peuple algérien, contre toutes ces mesures coercitives que les Américains s'amusent à distribuer pour affamer le monde et pour garder sa coupe et sa main exploitante, je dirais, et asservissante sur le monde.
Merci pour vos explications. Et vous, Monsieur Michel, avec toutes ces évolutions, à savoir la crise ukrainienne qui va de plus en plus mal, bien sûr, pour l'ex-US Israël, le renforcement des relations entre l'Iran et la Syrie et bien sûr toutes les explications de Madame Idani vis-à-vis de cette tendance de multipolarisation du monde, est-ce qu'on pourrait dire que la fin de l'ex-US Israël et de leurs hostilités est proche?
L'opération spéciale en Ukraine. Vladimir Poutine avait deux buts. Il avait un but régional, c'est régler le problème de l'OTAN en mer d'Azov, en mer Noire et dans le Donbass. Mais il avait un but de géopolitique internationale, c'est d'en finir avec l'ordre mondial américain né à la chute de l'Union soviétique et avec la domination mondiale de l'économie américaine, ce qu'on appelle la globalisation. Dès la première semaine de l'opération spéciale en Ukraine, Poutine a obtenu cette lutte, c'est-à-dire qu'il est en train de maintenant de l'emporter militairement dans le Donbass et en Ukraine, mais surtout, il ne reste rien aujourd'hui de la domination américaine sur le monde. Lorsque commence l'opération spéciale, il y a à peu près 3 mois, les États-Unis dominent le monde à travers les 3 OTAN. L'OTAN de l'Europe et de la Méditerranée, l'OTAN du Proche-Orient avec Israël, et enfin l'OTAN du Pacifique avec le Japon et l'Australie notamment. Aujourd'hui, tout cela n'existe plus. Les BRICS sont en train de se ranger derrière la Russie. Les non-alignés réapparaissent, on le voit aujourd'hui. Avec l'invitation du ministre Lavrov au sommet du G20 en Indonésie, c'est les non-alignés du début des années 60 qui étaient les ennemis de l'impérialisme américain qui ressurgissent. Et enfin, évidemment, on assiste à la dédollarisation de l'économie mondiale, à commencer par le marché des hydrocarbures. Donc c'est une victoire pour la Russie. Oui. Et les sanctions occidentales sont une balle que les Occidentaux se sont tirés dans la tête et qui sont en train de tourner à la déroute pour eux.
Merci.
Donc évidemment, Poutine a réussi. Il ne faut pas oublier l'Afrique, puisque un nombre considérable de chefs d'État africains qui étaient auparavant satellisés par l'Occident ont maintenant une neutralité bienveillante vis-à-vis de la Russie. Et plus de 30 pays africains aux Nations Unies n'ont pas accepté de condamner la Russie. C'est donc une déroute pour l'axe américano-océanique, tout ce qu'on appelle, nous, en Europe, le bloc américano-occidental.
Merci beaucoup à vous, Luc Michel, géopoliticien, Aïssar Midani, analyste franco-syrienne des questions internationales, était avec nous pour ce débat. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette émission. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.
Escalade désespérée de la guerre économique que mènent les États-Unis. Beaucoup d'observateurs de ce qui se déroule en Ukraine ont été surpris de voir l'intervention de Henry Kissinger, ancien secrétaire d'État de la Maison-Blanche du temps du président Nixon. Même si ce criminel, honoré d'un prix Nobel de la paix en 1973, cela illustrait déjà l'imposture occidentale, fêtera bientôt ses 100 ans, il semble avoir toute sa raison que de nombreux responsables politiques ou médiatiques plus jeunes n'ont pas ou non plus. Sa prise de parole n'est certainement pas due au hasard et a, sans l'ombre d'un doute, été écoutée par ceux qui sont aux manœuvres. Sera-t-elle entendue est une autre affaire. Et nous n'aurons les premiers éléments de réponse qu'en suivant le déroulement des opérations en cours à l'est de l'Europe. En 2007, Daniel Vanov terminait la rédaction d'un livre paru un an plus tard, où il pointait les liens entre l'occupation de la Palestine par Israël et les implications que cette occupation avait dans le monde. En voici un extrait. D'aucuns préfèrent continuer à assister à la confrontation permanente entre les deux communautés, avec le risque d'un embrasement généralisé de toute la région déjà minée par les interventions en Afghanistan, en Irak et au Liban, et qui pourrait finalement s'étendre encore, passant par la Syrie, par la poudrière kurde, et venir ainsi jusqu'aux marches de l'Europe, toute proche. À terme, et en essayant d'adopter le cynisme de certains, l'on peut se demander si cette dernière idée ne séduirait pas les États-Unis. Peut-être serait-il temps que les citoyens prennent réellement conscience de ce que représente cette effroyable guerre économique qui se joue aussi entre les deux rives de l'Atlantique. Les exemples pullulent pour nous rappeler cet effondrement sans limite. que ce soit en matière aéronautique, avec la concurrence exacerbée entre Boeing et Airbus, ou entre le système américain GPS et son futur concurrent européen, Galileo, que l'administration Bush a déjà ouvertement menacé de destruction en cas de force majeure. Rien que ça. Que ce soit en matière de subvention des produits agricoles ou en matière financière, quand les États-Unis ont tout fait pour empêcher l'avènement de la monnaie unique européenne. Ou encore dans le jeu de yo-yo d'un dollar manipulé, quand il s'agit de relancer les exportations pour doper une croissance en perte de vitesse et une économie qui perd de sa suprématie dans les échanges mondiaux. Et ce qui est annoncé dans l'Arctique, suite à la fonte dramatique des glaciers, n'augure rien de spécifiquement plus réjouissant. L'un des derniers sanctuaires de la planète sera bientôt la proie des prédateurs qui s'y bousculent pour en soutirer les meilleurs profits. Les citoyens sont souvent dupes des enjeux qui se trament en non-lieu et n'ont aucune idée de ceux dont les États sont capables lorsqu'il s'agit de défendre leurs intérêts. Nombreux sont ceux qui se laissent manipuler, endormir par American Way of Life. Abusés par des publicités avantageuses, ils identifient les produits made in USA avec les valeurs qui fondent la démocratie. À travers quelques slogans judicieusement adaptés, doublés d'une succession d'images subliminales, ces pubs malicieuses ne flattent que nos médiocres certitudes de nantis. Notre notion de la démocratie se réduit bien souvent à notre capacité à consommer. Je dépense, donc je suis. Or, la réalité politique doit être appréhendée sous un autre angle, sous un autre plan, que celui du seul consumérisme. Et cette réalité-là est bien plus terrifiante que ces adroites mises en scène. Dès lors, peut-être n'est-il pas faux de penser que les donations européennes pour aider la Palestine à créer les infrastructures de son État sont démolies par l'armée d'Israël avec l'assentiment et les armes US afin que les entreprises américaines puissent par derrière non seulement continuer à vendre leurs armes à Israël, mais aussi proposer leur aide aux Palestiniens lésés par les destructions. À l'exemple des milliers d'entreprises américaines qui réalisent aujourd'hui de juteuses affaires dans un Afghanistan, un Irak et un Liban dévastés. Plus l'observation s'en montre assidue, précise et incisive dans ce petit coin de terre occupé, plus les enjeux planétaires y apparaissent en filigrance. Ce qui se trame là se vérifie également en tout autre point du globe où règnent des troubles impliquant les grandes puissances étrangères. La Palestine pourrait très bien être l'illustration sinistre des enjeux de cette mauvaise globalisation qui n'a pour seul critère que les profits à réaliser, quels que soient les moyens utilisés pour y parvenir. Et si c'est le cas, on est donc loin du compte. Désormais, c'est l'injustice qui prévaut. Et non État dit démocratique y contribue activement. Peut-être devrions-nous parfois méditer plus longuement sur la portée de certaines phrases quand elles émanent de gourous associés au lieu de pouvoir. Les grandes puissances n'ont pas de principe, seulement des intérêts, disait déjà Henry Kissinger. Non seulement je doute que nous soyons réellement conscients de la portée d'une telle déclaration, mais je redoute par-dessus tout ses terrifiantes conséquences. C'était un extrait de « La démocratie mensonge » écrit par Daniel Vanhoeff. Rédigé en 2007, plusieurs faits ont confirmé ses craintes. Eh bien, qu'il ne soit jamais bon d'avoir raison trop tôt, les pays européens pourraient encore se ressaisir. S'ils avaient à leur tête autre chose que des milliers de lobbyistes qui pilotent leur politique dans le suivisme aveugle de celle dictée par l'Empire US, chancelant qui poursuit, vaille que vaille, ses propres intérêts. Entre-temps, la capitale belge est devenue le second lieu concentrant le plus de lobbyistes au monde après Washington. L'ONG Transparency International estime autour de 30 000 le nombre de lobbyistes pour environ 40 000 fonctionnaires à Bruxelles. Cette guerre économique et financière que mènent les autorités américaines partout dans le monde, aujourd'hui à travers l'Ukraine, pour conserver leur hégémonie, tend à son paroxysme. Si la raison ne retrouve pas ses droits, il est à craindre que les décisions seront à la démesure de la perception qu'auront ces mêmes autorités de la perte de leur suprématie. Comprenez jusqu'au boutiste, avec les imprévisibles conséquences qui en découleront, sauf ce qu'en a dit le président Vladimir Poutine lui-même. La réponse de la Russie conduira à des conséquences que vous n'avez encore jamais connues.